Europe 1. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, j'ai souhaité évoquer pour vous Adolphe Thiers, second président de l'histoire de la République française. On le réduit souvent à son rôle dans la répression de la Commune de Paris en 1871. Or, c'est assez injuste, car il fut aussi un politicien très populaire et un grand homme d'État. Pendant près de 50 ans, l'ambitieux méridional ne quittera la scène politique que par parenthèse, gravissant patiemment les marches menant au pouvoir suprême. Mais plus que les succès politiques et littéraires d'Adolphe Thiers, c'est le caractère pour le moins original de sa vie privée qui nous intéresse dans ce nouvel épisode en deux parties. Pourquoi donc ? En quoi fut-elle si originale ? Jugez plus tôt.
Ah ! Vous avez donc rendu visite à Monsieur Thiers en son hôtel particulier de la Nouvelle-Athènes ? Et dites-moi plutôt, qui vous a reçu de ces dames ? Était-ce Sophie ? Était-ce Élise ? Était-ce Félicie ? Elles étaient toutes là ? Heureux homme ! Vous avez donc rencontré les trois moitiés de Monsieur Thiers.
Eh oui, Adolphe Thiers eut bel et bien trois femmes dans sa vie, non pas successivement, mais simultanément. Mieux ou pire encore, les trois femmes en question étaient de la même famille, une mère et ses deux filles. On imagine la Pétaudière. Bravant avec panache la morale bourgeoise de son temps, Thiers assuma cette situation familiale jugée inconvenante par la plupart de ses contemporains. Cette situation unique dans les annales de la présidence de la République incite à en savoir plus sur l'étonnant spécimen que fut Adolphe Thiers. Dès son berceau, sa situation familiale en fait un cas intéressant. Adolphe naît le 15 avril 1797 à Marseille. Il est le fruit des amours adultères d'une certaine demoiselle Amic, fille de négociants marseillais ruinés par la Révolution, et de Pierre Thiers, un homme marié, héritier fantasque d'une famille bourgeoise. Adolphe a bien failli être un enfant naturel, c'est-à-dire un bâtard dans une époque où cela change encore tout. Heureusement pour lui, l'épouse de son père, Claudine Fougas, disparaît fort opportunément un mois avant sa naissance, de sorte que désormais veuf et très consolable, M. Thiers peut épouser in extremis Mademoiselle Amic et reconnaître l'enfant qu'elle portait. Mais cela n'empêchera pas Pierre Thiers d'être un père déplorable. Non seulement il quitte Marie-Madeleine Amic quelques semaines après l'avoir épousée, mais il ignorera totalement son fils dont il ne se souviendra que lorsqu'il pourra lui emprunter de l'argent. Un père un tantinet escroc, irresponsable et absent, voilà tout l'héritage paternel d'Adolphe élevé par une grand-mère et une mère sans le sou. Mais comme il est brillant et volontaire, il obtient une bourse. Après les années de lycée à Marseille, il fait son droit à Aix-en-Provence, réussit sa licence et devient avocat. Mais au fait, à quoi ressemble physiquement notre futur serial lover ? Sûrement pas au playboy auquel on pourrait s'attendre compte tenu des succès féminins qu'il accumula sa vie durant. De très petite taille, 1m54, plutôt étriqué, le front agrémenté d'une houppette à la Tintin. Il porte d'épaisses lunettes rondes, mais des gilets de couleur criardes qui jurent avec son habit et s'exprime d'une petite voix aigre et flûtée, avec un accent méridional prononcé qui dut, au moins dans un premier temps, susciter amusement et condescendance chez la gentry parisienne à laquelle il rêvait d'appartenir. En somme, il est très voyant, mais loin d'être beau. Maurice Reclus nous dit de lui qu'il ressemblait à l'un de ces petits perruquiers du midi qui vont de porte en porte offrir leurs savonnettes. De nos jours, on parlerait d'un plouc un peu ringard débarquant chez des bobos parisiens. Et pourtant, Adolphe va séduire, subjuguer même, aussi bien homme que femme d'ailleurs. Comme il s'intéresse à tout et qu'il est servi par une mémoire exceptionnelle, il impressionne tous ceux qu'il rencontre par sa culture et sa verve endiablée. Force de travail, hors du commun, véritable tornade blanche, se déployant tous azimuts, cet être infatigable qui carbure au café froid et à la brandade de morue, donne couramment audience chez lui dès 5 heures du matin. Lamartine résumera cela à sa façon en écrivant de Thiers qu'il avait en lui assez de salpêtre pour faire sauter 10 gouvernements. Thiers, c'est le mélange d'une énergie et d'une ambition hors du commun. À 24 ans, le petit homme est déjà bien trop grand pour se contenter d'Aix-en-Provence. Tout voir, tout entendre, tout apprendre, réussir, arriver, voilà l'objectif. Sur les conseils de son ami Minier, parti en éclaireur, il monte donc à Paris en 1821, ayant obtenu un poste de secrétaire du duc de La Rochefoucauld-Liancourt. Les débuts sont austères. Avec son ami Minier, il occupe une mansarde, passage Richelieu. Contemplant Paris qui s'étend à ses pieds, un jeune homme fraîchement débarqué dans la capitale s'exclame « À nous deux, maintenant !» Cette phrase bien connue est prononcée par Eugène Rastignac, personnage de provincial dévoré d'ambition dans la comédie humaine de Balzac. Mais ce que l'on sait moins, c'est que c'est justement Adolphe Thiers qui inspira à Balzac ce personnage d'arriviste. Dans son roman, l'écrivain complète d'ailleurs la formule citée plus haut par un ironique « Et pour premier acte de défi que Rastignac portait à la société, il alla dîner chez la baronne de Nucingen. » Ce que le personnage de Delphine de Nucingen est à Rastignac dans le roman de Balzac, Sophie Dawn le fut pour Thiers dans la réalité. Dans le roman, la baronne a 7 ans de plus que Rastignac et son mari est banquier. Dans la réalité, Sophie Dawn a 3 ans de plus que Thiers et son mari, de 13 ans son aîné, est un agent de change ayant des activités foncières. C'est chez elle qu'Adolphe vient dîner un soir, probablement entre 1824 et 1827. Thiers n'est alors plus secrétaire particulier. Arrivé le 1er novembre 1821 à Paris, il est embauché le 31 au Constitutionnel, journal le plus influent du moment. Il n'a pas perdu de temps. Et ses articles vont faire mouche. Il devient très vite le chouchou du directeur. Quand il rencontre les Dawn pour la première fois, il n'est donc déjà plus un parfait inconnu. Talleyrand, qui a d'ailleurs déjà croisé son chemin, ne s'y trompe pas, qui déclare à son sujet
« Ce n'est pas un parvenu, c'est un arrivé qui ira plus loin que nous tous. »
Quel genre de femme pourrait convenir à un ambitieux de sa trempe? Il faut qu'elle soit riche, riche et influente, qu'elle puisse l'introduire auprès de personnalités importantes qu'il ne connaît pas encore, qu'elle lui apprenne à louvoyer, à éliminer les gêneurs et à se placer dans le sillage des hommes qui montent. Bref, il faut qu'elle puisse le servir dans sa carrière. Pour Thiers, cette femme, ce sera Sophie Dawn. Et pour conserver le petit près d'elle, elle finira même par le mettre entre les pattes de ses filles, Élise et Félicie. Ces dames, comme aimait à les qualifier Adolphe, seront tout à la fois ses maîtresses, belles-mères, épouses, belles-sœurs et amies. 50 années durant, elles l'aimeront, le choiront, le pousseront, et telles des vestales vouées au culte d'un dieu unique, serviront jusqu'à leur dernier souffle leur cher petit grand homme. Que dire de ce trio? Il y a donc la mère, Sophie, née Eurydice Matheron à la fin du XVIIIe siècle. Elle appartient à une famille auvergnate montée à Paris pour ouvrir un magasin de parapluies et de nouveautés. Ses parents lui ont choisi un prénom romantique à souhait, auquel cette femme de tête a renoncé pour celui plus simple de Sophie. En 1811, à l'âge de 17 ans, Eurydice, alias Sophie, épouse Alexis Dawn, qui va s'avérer très doué pour les affaires. Il spécule sur des terrains, achète, revend, bâtit dans le quartier en pleine expansion de la chaussée d'Antin et fait aussi l'acquisition des mines d'Anzin. À ce train-là, il amasse une jolie fortune. Élise et Félicie naissent respectivement en 1818 et 1823. Tout ce petit monde loge au 30 de la rue de Provence, dans le quartier à la mode de la Nouvelle Athènes, entre Notre-Dame de Lorette et Pigalle. Les Daunes, mari et femme, vont prendre Adolphe sous leur aile, lui apprendre le monde des affaires, lui présenter la cour et la ville. Dans les salons de la bourgeoisie libérale opposée à Charles X, Thiers va croiser Stendhal, Mérimée, Ingres, Chateaubriand, Victor Hugo, Lafayette ou même Sainte-Beuve, bref, tout ce gratin dont il rêvait. Femme forte, femme d'esprit, résolue, passionnée, Sophie serait devenue sa maîtresse en 1828. Et elle va rendre un fief et service à son poulain en l'aidant à se lancer en politique. Après les Trois Glorieuses de juillet 1830, ayant favorisé l'accès au trône de Louis-Philippe d'Orléans, Thiers devient conseiller d'État et sous-secrétaire d'État aux finances. Et du coup, il voudrait bien se présenter aux législatives, mais on est encore dans un système électoral censitaire et il n'a pas les revenus suffisants pour se présenter. Il faut payer 1000 francs d'impôts annuels pour pouvoir être candidat. Qu'à cela ne tienne, la société immobilière d'Aune lui cède un immeuble place Saint-Georges à Paris dont la valeur déclarée est de 100 000 francs. La maison d'Aune lui accorde un crédit total et gratuit. L'acte d'achat est signé le 18 octobre 1830. Un bel exemple de trafic d'influence. Voilà qui permet en tout cas à Adolphe de devenir un mois plus tard député des Bouches-du-Rhône. Il le restera jusqu'en 1848. La bête politique est lâchée. Récompenser son bienfaiteur sera quasiment son premier acte officiel. Il nomme Alexis Daune receveur général des finances, mais le plus loin possible, à Brest. Sophie, quant à elle, reste à Paris avec les filles. Deux années passent quand en 1833, pour s'attacher définitivement son amant, Sophie Daune lui fait épouser sa propre fille, Élise. Fiction et réalité se rejoignent à nouveau, car dans le roman de Balzac, publié 4 ans plus tard, la baronne de Nucingen, elle aussi, fait épouser sa fille à Rastignac. Que pense Élise de ce mariage? Lui a-t-on seulement demandé son avis? Elle se contente d'obéir docilement à sa maman. Au reste, quelque désargenté qu'il soit, Thiers est indéniablement un parti prometteur. Le 6 novembre 1833, on signe donc le contrat de mariage en présence des plus hauts dignitaires de l'État. Le document est ensuite porté aux Tuileries afin que le roi et la reine eux-mêmes y apposent leur signature. Oh, quand on pense que 12 ans plus tôt, Adolphe vivait dans une mansarde avec 100 francs en poche. Ah, comme tout cela est loin désormais. Les Daunes ont nanti leur fille de 300 000 francs de dot, somme dont M. Daune, qui pour être un mari complaisant n'en est pas pour autant un créancier facile, va déduire les 100 000 francs avancés à Adolphe pour l'acquisition de l'hôtel particulier de la place Saint-Georges. La nouvelle de ce mariage fait jaser dans tout Paris. Delphine Gay, journaliste amie de Balzac, qui habite à quelques encablures de Thiers et de ses dames, décrit en ces termes le mari cocu.
Ce gros frisé qui, pour mieux resserrer les liens de sa famille, à l'amant de sa femme, a marié sa fille.
Et en effet, de quoi rire, mais rire jaune, car Thiers a 36 ans et sa femme à peine 15. Un excellent prétexte pour que Sophie, au moins dans un premier temps, ne cède pas à sa fille la place qu'elle occupe alors dans le lit de son gendre. À l'un de ses amis, Thiers écrit
« J'épouse Mademoiselle Donne, que vous connaissez et dont je n'ai rien à vous dire.
Hélas, tout est dit au contraire. Nul ne conteste que le mariage de Thiers soit un mariage d'amour. Seulement, c'est un mariage d'amour non pas avec sa femme, mais avec sa belle-mère. On dira d'ailleurs de cette union entre Adolphe et Élise qu'elle fut essentiellement platonique. Pouvait-il en être autrement, alors qu'Élise savait pertinemment que son mari était l'amant de sa mère ? En compensation, bien tardive, de son sacrifice sur l'autel de l'adultère et de l'ambition, Élise Daune deviendra 38 ans plus tard, en 1871, la toute première dame de l'histoire de la République française. même si cette appellation de première dame n'apparaît que sous la IVe République, avec l'épouse de René Coty. En effet, Louis-Napoléon Bonaparte a bien été le premier président de la République française bien avant-hier, en 1848, mais il est déjà empereur lorsqu'il épouse Eugénie de Montijo en 1853. Donc la première dame, c'est bien Élise d'Eaune. Lorsque Thiers l'épouse, Élise est encore presque une enfant. Une enfant gâtée, capricieuse, boudeuse et pas très jolie. Elle est petite, le front saillant, la bouche dédaigneuse, mais a de grands yeux et de beaux cheveux. Avec le temps, elle gagnera tout à la fois en élégance et en aigreur. Thiers ne s'intéressera guère à elle et aura quelques aventures en dehors de la place Saint-Georges. On lui prêtera notamment une liaison avec la duchesse de Dinau, nièce et maîtresse de Talleyrand, et une autre avec mademoiselle Audier, maîtresse de Mérimée. Le politicien Scheurer-Kestner évoque également dans ses mémoires une certaine maîtresse de Thiers logée rue de Vaugirard. De toute façon, chez Thiers, l'ambition passe avant l'amour, et pour le reste, en d'autres termes, pour la gaudriole, il aura plutôt recours à des relations tarifées. Épouse trompée, Élise lui rendra la monnaie de sa pièce en prenant pour amant le député Édouard Roger du Nord, qui restera un familier du ménage. Chez les d'Eaune, Thiers, on est du genre tolérant. Malheureuse Élise, vivant dans la dépendance d'une mère toute puissante, contrainte de cohabiter avec elle toute sa vie, on peut comprendre son aigreur. Comment s'étonner qu'elle n'ait pas été plus aimable ? On raconte que sa mère lui donnait des ordres à longueur de journée, d'où son surnom de Madame Jor d'Eaune. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous donne rendez-vous demain pour la seconde partie de cet épisode d'Au cœur de l'histoire, consacré aux mœurs un peu particulières d'Adolphe Thiers.
Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio. Cet épisode a été écrit et raconté par Clémentine Portier-Kaltenbach. Il a été réalisé par Oscar Vatter. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Bibliographie. Monsieur Thiers, par le duc de Castries, édition Perrin, 1983. Vie de Monsieur Thiers, monographie imprimée de Francis Franck, 1877. La vie à Paris, 1880-1885, par Jules Claretti, Victor Havard éditeur, 1885. Les présidents de la République française et leurs familles, par Michel Sémanterie, édition Christian, 1982. Adolphe Thiers par Pierre Guiral, aux éditions Fayard, 1986.